Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque.
Afrique Plus, Alain Foka.
Ses camarades de l'école coranique dans la campagne de Louga au Sénégal ne le croiraient pas si on leur racontait qu'il est devenu l'un des plus fins et pointus analystes politiques à New York où il s'est installé il y a plus d'une quarantaine d'années. Qu'il est l'un des principaux journalistes qui a été choisi par l'administration américaine il y a quelques années pour interviewer le président George W. Bush avant sa tournée en Afrique. Il faut dire qu'il n'a jamais été à l'école. Pourtant, aujourd'hui, il manipule les idées et les notions politiques avec une remarquable dextérité. Cite de mémoire les plus grands auteurs contemporains et même des siècles précédents. Et l'émission qu'il anime sur une radio périphérique de New York est l'une des plus écoutées par la diaspora. À Little Sénégal, l'un des principaux quartiers africains dans Harlem, il est l'une des principales figures. Dame Babou est ce week-end l'invité d'Afrique Plus, le magazine qui chaque semaine vous propose pendant 20 minutes de découvrir l'Afrique autrement que par ses manques. Le rendez-vous qui vous invite à découvrir le continent noir à travers ceux qui, au milieu des drames et pandémies, donnent à espérer et inscrivent l'Afrique dans la modernité et le futur. Bonjour Dame Babou. Comment le fils d'imam qui part de Louga dans le département de Kébémer au Sénégal, sans avoir été à l'école, se retrouve quelques années après analyste politique de renom à New York, développant ses thèses et ses interventions en français, en anglais et en wolof? Vous n'avez pourtant pas fait d'études.
Non, je n'ai pas fait d'études dans l'école formelle, l'école française formelle chez nous. Parce que mon père, qui était l'imam de mon village, vous savez, la forme de résistance au colonialisme dans beaucoup de pays africains, c'était de refuser d'envoyer les enfants à l'école française. On disait que on va leur appliquer un lavage de cerveau. Donc mon père ne voulait pas envoyer ses enfants à l'école. Mais il se trouve que j'ai été très curieux quand j'étais jeune, là où on m'avait envoyé chez mon grand-père, l'oncle de mon père. Le premier jeune homme qui est venu, qui parlait français, qui écrivait, c'était pour gérer la coopérative. Venu de la ville de Kébémer, c'est lui qui m'a appris l'ABC en 1966, je crois. Mais surtout, que c'est le monde politique de gauche qui m'a mis en rapport avec l'analyse politique, qui m'a mis en rapport avec les discussions intenses dans les groupes.
Il faut préciser que vous partez de Louga, vous vous installez à Dakar, immigré, qui n'a jamais été à l'école, fils d'imam, comme vous le disiez, et pourtant vous vous retrouvez dans le milieu politique qui foisonne à cette période des années 70-71, où il y a la révolution, on est juste après 1968, qui a eu des grandes répercussions également au Sénégal, qui a même menacé le régime de Léopold Sédar Senghor à l'époque. Et vous, inculte, vous êtes avec toutes ces personnes-là qui militent pour la gauche, pour une gauche que vous ne connaissez pas.
Mais vous savez, les adolescents sont d'abord curieux. Ensuite, quand vous venez de la campagne, vous êtes en ville, les premiers contacts, c'est toujours une pression énorme pour être accepté. Il faut faire des efforts énormes, ce qui fait que même dans le milieu de la gauche, probablement je faisais des efforts qui dépassaient un peu ce que les gens de mon âge faisaient.
Mais la gauche, ça ne signifiait rien. Pour vous, vous veniez de la campagne, est-ce que vous compreniez ce qui se disait dans ces universités avec ces intellectuels qui manipulaient des pensées, des théories qui venaient d'ailleurs?
Mais vous savez, c'était le moment où le maoïsme commençait à s'installer véritablement au Sénégal. Comme la théorie, c'était l'encerclement des villes à partir des campagnes, une révolution agraire, contrairement à la révolution soviétique qui était dirigée par la ville et par le prolétariat, il fallait absolument avoir son paysan qui est un révolutionnaire, ce qui fait que j'étais un peu l'enfant chéri des groupes de gauche que j'avais.
Vous étiez le paysan de service.
Oui, le paysan de service, si vous voulez, aujourd'hui, on peut le dire. Mais j'avoue que, sérieusement, j'avais de très bons amis que j'ai gardés jusqu'à maintenant, d'ailleurs, qui sont mes meilleurs amis jusque-là, qui ont été très généreux, qui ont toujours... je n'étais pas senti le rejet de ce paysan-là qui se mêle de ceux qui ne le regardaient pas. Au contraire, donc c'est dans ce sens-là que je suis arrivé, avec le contexte de l'analyse politique, le contexte de protestation, vous savez.
Le contexte de protestation qui va vous amener à côtoyer quelqu'un qui était très très célèbre, qui était contesté au Sénégal par un certain nombre de membres de la classe politique, notamment ce proche de Léopold Sédar Senghor, mais qui va devenir quelqu'un avec qui vous travaillez très étroitement, Cheikh Anta Diop.
Oui, Cheikh Anta Diop, notre contact avec lui, les gens de mon âge, le groupe avec lequel je travaillais, son contact avec lui était une rupture, je peux l'appeler, parce qu'à l'époque, vous savez, on était très prompte à qualifier quelqu'un de bourgeois, révolutionnaire, de bourgeois comprador, etc. Mais Cheikh Anta Diop, lui aussi qui était isolé par Senghor, comme vous venez de le dire, avec l'entourage, l'état de Senghor, qui n'avait n'avait pas de contact avec la jeunesse de ce pays, quand Babacar Niang, Tidiane Baydili, Séni Niang, Dr Moustapha Diallo et autres, ils sont tous malheureusement, ils ne sont plus de ce monde-là, quand ils ont créé le RND, et ils ont allé contacter Cheikhanta Diop pour dire que les révolutionnaires de gauche ont un devoir d'être en contact avec les masses, et Cheikhanta Diop était déjà leader d'un parti qui était interdit par Senghor, donc on est allé pour travailler avec lui. Mais comme je vous l'ai dit...
C'est-à-dire que c'est pas Cheikhanta Diop qui crée le RND et son parti?
Non, il l'a pas créé. Il l'a pas créé. C'est Cheikhanta Diop. Cheikhanta Diop avait créé son parti qui s'appelait le BMS, et on l'a dissous. Il a créé le FNS qui a été dissous en 66. Donc, il n'a plus recommencé à faire la politique. Il s'était retiré dans son laboratoire à Lifan, complètement isolé par Senghor, choyé par les Américains, surtout dans le monde noir. Donc, quand Cheikhanta Diop a eu ce contact-là avec le Babacar Niang et autres qui dirigeaient le PAI authentique, à l'époque, quand les Majmout et autres étaient en exil, c'est Babacar Niang qui est allé en prison, c'est lui et ses amis qui ont créé le RND, qui sont allés voir Cheikhanta Diop avec un programme et tout déjà écrit pour lui dire il est temps que vous ressortiez encore. Senghor a refusé d'accorder à ces partis-là un récépissé d'existence légale, mais nous, on a commencé à travailler. Et comme moi, je vous le dis, je parlais mieux Wolof même maintenant que le français et l'anglais, donc je comprenais déjà le français, j'étais le traducteur attitré des articles de Cheikhanta Diop, c'est comme ça que je suis arrivé à travailler avec lui.
Et vous écriviez comment?
Bon, d'abord, moi j'avais fait le Coran, on nous a appris le Coran, à un moment j'avais même maîtrisé la récitation du livre saint du Coran intégralement, mon père en était très fier, mais vous savez, on m'apprenait à réciter, on ne m'apprenait pas à comprendre ce que cela voulait dire. Mais moi, je sais écrire en arabe, donc j'utilise les caractères arabes pour traduire les articles de Cheikhanta Diop, pour en faire pour les écrire en Wolof.
Alors vous êtes un militant de Cheikhanta Diop pendant cette période-là, vous vivez quasiment à côté de lui, traduisez ses articles. Comment vous vous retrouvez ici aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qui vous amène aux États-Unis d'Amérique un jour?
Je peux vous dire par curiosité, hein, honnêtement, parce qu'au moment où je venais ici, je peux dire que ma situation financière et économique n'était pas des plus mauvaises. Comme vous voyez, moi j'ai toujours intégré l'histoire.
Oui, mais le militant de gauche qui lutte pour le prolétariat, qui choisit de venir dans le pays de l'oncle Sam, le siège même du capitalisme.
Donc j'étais venu en visite.
Du capitalisme.
J'étais venu en visite. Mais quand je suis venu, je me suis rendu compte que même ici, on pouvait faire quelque chose d'intéressant. Je me souviens, un soir d'été, on était dans le parc, Central Park, avec un ami. Je disais, mais moi, je ne comprends pas, les Sénégalais ici, pourquoi on ne s'organise pas en association? Pourquoi on n'a pas des coopératives d'habitat au Sénégal, etc. Un ami, enfin, quelqu'un qui est devenu un ami, après a dit, mais toi là, jeune homme, tu es intéressant. Hein? On va voir, je vais te présenter des gens, on va créer une association. C'est comme ça que la grande association est née.
L'association des Sénégalais.
Les Sénégalais d'Amérique ici, j'étais le porte-parole, le secrétaire administratif, et je ne sais quoi encore, c'est moi qui ai écrit le premier règlement intérieur. C'est comme ça que, donc, la même pratique que j'avais, même quand j'étais dans le commerce au marché du port, je suis resté toujours le militant.
Parce qu'il faut dire que vous vous êtes lancé dans le commerce, dans l'informel, mais le commerce quand même.
Oui, le commerce, mais dans l'informel. Mmh. Et il se trouve que quand je l'ai fait, la plupart de mes amis avec qui on était dans le RND étaient devenus des jeunes avocats, tels que Elijah Amadou Sall aujourd'hui, René Lec, chef d'entreprise, et d'autres.
Qui est à Washington.
Qui est à Washington. Mmh. Ce sont ces gens-là qui sont devenus mes clients en même temps. Quand ils sont devenus des petits bourgeois un peu avec de l'argent, ils sont devenus mes clients. Et c'est comme ça que...
Vous êtes aussi un petit bourgeois.
Bon, je ne sais pas. Bon, donc c'est comme ça que nous sommes venus là. Moi, je suis venu peut-être 4 ans, 5 ans avant René Lec. Et il était à Paris, le correspondant de Sud Communication et de la PANA. Mm-hmm. On se parlait pratiquement toutes les nuits. On faisait le monde, on refaisait le monde le lendemain. Et c'est comme ça que lui aussi, après, il est venu. Il s'est installé ici. Mm-hmm. C'est comme ça que ce petit paysan-là venu de la campagne s'est installé à New York.
Le petit paysan venu de la campagne s'installe à New York, trouve d'autres Sénégalais dans la région de New York. Vous aviez quel âge?
C'était en 88, donc j'avais quoi? Je suis né en 1953. Mmh. Vous faites le 35 ans peut-être.
Vous arrivez à 35 ans,
ouais.
Et pour la première fois, vous vous inscrivez à l'école où vous n'avez jamais été. Et vous vous inscrivez à l'université.
Oui, c'est ça, comme ils disent en anglais, only in America. Mmh. Il y a ici ce qu'on appelle l'University of New Rochelle, College of New Rochelle. Ils ont un programme où les adultes peuvent venir se faire tester et être admis à l'université. C'est comme ça que je suis entré à l'université pour la première fois de ma vie.
Pour apprendre quoi?
D'abord, je faisais de la littérature. J'ai fait de la littérature. Comme je savais que j'étais déjà plus ou moins dans le journalisme, avant de venir ici avec le RND, le journal du RND, et le journal de PLP quand le RND a éclaté, j'étais déjà dans le journalisme.
Le parti de Cheikh Anta Diop.
Le parti de Cheikh Anta Diop, Rassemblement National Démocratique, et Parti pour la Libération du Peuple, créé par Babacar Niang après la rupture avec Cheikh Anta. J'étais toujours dans le journal. J'étais rédacteur, j'étais le traducteur. Le journal du RND qui s'appelait Réumi, j'étais aussi le chef de la section politique. Donc quand je suis venu là, j'ai eu la possibilité d'aller faire la littérature au niveau de l'université. Je n'ai pas hésité.
Vous avez fait de la littérature et votre particularité, Dambabou, c'est de beaucoup lire. Vous avez lu l'essentiel des penseurs de gauche de l'époque.
Et même parfois.
Marx, Engels.
Oui. Marx, Engels, même jusqu'à Kim Il-sung, à l'époque, à notre âge.
De la Corée.
Oui, et voilà. Il fallait pouvoir discuter. Il fallait pouvoir parler de tout. Et vraiment, on lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je connais un gars, qui s'appelle Chernia, qui est un sociologue maintenant à l'université. Quand il vous faisait le résumé de la théorie de Engels, ou de Mao Zedong, ou de Lénine, vous ne pouvez pas croire que c'est un jeune étudiant, nous tous. Donc on était obligé de beaucoup, beaucoup apprendre. Avant de venir ici, quand même j'avais lu.
Ça a servi à l'université ici.
Ça a servi à l'université, c'est vrai. Parce que je me souviens quand on avait une sorte de concours où on nous avait donné le livre de Marc Mataban de l'Afrique du Sud pour faire la comparaison avec sa description des townships et les ghettos ici en Amérique. Moi, je peux dire que mon papier avait circulé dans l'école.
Parce que vous aviez déjà une connaissance de tout ça.
Oui, plus ou moins, plus ou moins. Parce que on était déjà très liés avec l'ANC quand on était dans la gauche. Moi, je me souviens.
L'ANC de Nelson Mandela.
Nelson Mandela, son représentant qui était à Dakar. Je l'ai invité à la maison déjà pour organiser des dîners débats, pour organiser des thé-débats. Pas de dîners débats, on n'avait pas les moyens à l'époque. Bon, donc, j'avais une familiarité avec cette situation-là. Donc, c'est comme ça que je suis venu dans le journalisme, réellement.
Alors, vous êtes venu dans le journalisme. À New York aussi, vous vous lancez dans le journalisme. On va dire dans un quartier qui s'appelle aujourd'hui Little Sénégal, mais qui ne s'appelait pas vraiment comme ça à l'époque. C'était plutôt un petit hôtel dans lequel vous habitiez, bon, qui était toujours au même endroit.
Dans les années 80, quand les Sénégalais venaient ici, ils habitaient dans les hôtels à résidence, qu'on appelle Extended Stay Hotel. C'était le cas de l'hôtel 110, là où j'habitais. C'était le quartier.
À la 110e rue.
À la 110e rue, face au Central Park. Il y avait l'hôtel 50 qui est sur la 50e rue, il y avait Saint-Anne Hotel qui est sur la 27e. Les Sénégalais habitaient là. Et comme la première immigration sénégalaise ici est différente de celle qui est venue du nord du Sénégal, de l'est du Sénégal en France, pour être des ouvriers spécialisés, c'était des commerçants déjà dans l'informel.
Ceux qui venaient ici étaient des commerçants dans l'informel.
Dans l'informel chez eux. Donc ils ne cherchaient pas un salaire réellement. On commençait à vendre dans la rue comme on le faisait à Dakar. Quand on est venu à Dakar après la sécheresse des années 73, on a fait la même chose ici.
C'est les immigrants qui étaient venus à Dakar qui se sont retrouvés à New York.
Voilà, c'était déjà des immigrants au Sénégal. Et ils sont venus à New York, ils se sont installés dans le petit commerce, ils se sont installés dans la rue, des vendeurs à la sauvette, comme on le faisait à Dakar. Et ici, c'était New York. Et c'était vraiment fait pour eux. Ces gens-là n'aiment pas beaucoup le salaire. Donc ce quartier qui s'appelle Little Sénégal aujourd'hui était presque inhabité. À l'époque, il y avait même des pyromanes qui sont payés pour brûler des immeubles. Des immeubles habités par des gens qui sont à la charge du gouvernement, des Américains. Ah. Et comme le gouvernement payait peu et on voulait refaire le quartier, il y a des gens qui payaient des pyromanes pour brûler leur propre immeuble, pour que les gens puissent sortir. Donc le quartier n'était pas vraiment aussi attractif qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Little Sénégal, mais le quartier est à moitié pratiquement blanc maintenant.
Oui, puisque aujourd'hui, c'est devenu un quartier bobo. Les gens s'installent dans le coin, à Harlem.
Ouais.
Et
il y a tous les services.
Pas n'importe qui, il y a tous les services.
Et ça coûte, ce qui coûtait $350 par mois comme location coûte maintenant 2400, 2500. La raison, c'est que à un moment donné, le congressman de Harlem, au moment où il y avait la prospérité des années de Bill Clinton vers le 1975, un congressman de Harlem a introduit une loi au Congrès américain qu'on appelait Empowerment Zone. On prend des investisseurs, on leur donne pas l'argent, mais on les accompagne. On leur donne une garantie bancaire, on forme le personnel pour vous gratuitement, etc. Ce qui fait que vous avez des taux concessionnels pour quand vous empruntez de l'argent pour investir dans le quartier. Parce que les Sénégalais en particulier, les Africains de l'Ouest en particulier, les Sénégalais, avaient déjà créé de petits business. Ils commençaient à louer les appartements, etc. D'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit un article dans le Sud que j'appelais « Quand les Modumodu décloisonnent Harlem et le Bronx ». Les Modumodu, c'est les immigrants sénégalais. Et parce que même un taxi, c'était impossible de l'avoir pour venir dans le Bronx et le Harlem. C'est comme ça que ça s'est passé. Le quartier est devenu donc très attractif et est devenu Little Sénégal à cause de beaucoup de reportages qu'on a fait.
Parce que quand on arrive là-bas, on a l'impression quand même d'être en même temps à Sandaga et dans un quartier populaire de Dakar.
Absolument, parce que vous ne pouvez pas rester 10 minutes quelque part dans ce périmètre sans entendre quelqu'un qui parle poulard ou wolof ou mandingue, parce que quand les Sénégalais se sont regroupés autour des 110, les Ivoiriens qui sont venus ensuite se sont regroupés autour des Sénégalais, les Guinéens de même, ils ont commencé à avoir des taxis, ce qu'on appelle les gypsies ici, toute proportion gardée, qu'on peut appeler les clandos, etc. C'est comme ça que l'économie du quartier a été devenue très très puissante, et finalement les grands investisseurs sont venus. Vous avez aujourd'hui, quand j'ai vu des boîtes pour vendre le New York Times dans la rue, à Harlem, j'ai dit, les gars, on va nous faire sortir d'ici.
Alors, l'une de vos particularités, c'est d'avoir quasiment interviewé la plupart des chefs d'État africains qui sont passés ici, et même George W. Bush. Alors, vous avez créé la première émission africaine de radio ici, à New York. Comment cela se passe? Comment démarre cette aventure pour un jeune qui arrive, qui se le merde, qui travaille dans une station-service à l'époque?
Oui, je travaillais dans une station-service et j'étais avec un jeune haïtien. On travaillait la nuit, de minuit à 6h. Donc, il écoutait toujours de la musique reggae. Mais dès le matin, vers 5h, on change de programme, on change de langue. Je dis, cette radio-là, elle est particulière. J'ai appelé la station pour dire comment ça fait qu'il n'y avait pas d'uniformité dans vos programmes. Et ils ont dit, parce que nous n'avons pas de programme. On a une radio, on loue du temps d'antenne et les producteurs privés font ce qu'ils veulent. Et à l'époque, moi j'avais engagé un autre jeune, j'étais déjà le manager au niveau de la station de service, j'ai engagé un autre jeune qui était un journaliste de formation dont le frère était un ami du RND d'ailleurs, et était un ami qui était au RND. Je lui ai dit,
parti de chez Contadium.
Ouais, je lui ai dit, on crée une émission de radio. Il a contacté deux autres amis, on a créé African Hour. Quand on le faisait, c'était $500 l'heure pour louer. On a avec 2500. On ne savait même pas quoi faire après. Mais tout de suite, je dis, il y a des Sénégalais, il y a d'autres Africains, il y a des avocats qui travaillent avec les immigrés, je vais les voir pour chercher de la pub. Les gens me disent, mais vous êtes fous, ces gens-là ne connaissent pas la pub. Je dis, mais quelqu'un qui ne sait pas comment dire, vous avez une marchandise, je peux vous amener celui qui est intéressé par votre marchandise, paye-moi. Celui qui ne comprend pas ça ne peut pas avoir de business à New York. Ils comprendront. Et immédiatement, depuis lors, c'était 20 ans. En mars, on va fêter les 20 ans. C'est comme ça qu'on est ici.
Les 20 ans de l'émission.
Les 20 ans de l'émission. Et comme c'est la première émission de radio avec un Sénégalais indépendant dans l'histoire du pays, c'était la première fois, c'était aussi la première émission de radio africaine ici, en France et en Wolof. Donc tous les hommes politiques qui passaient par là voulaient passer à la radio, bien sûr. Et ensuite, quand George Bush devait aller au Sénégal, j'étais déjà le correspondant du groupe Sudcom. Ils ont demandé à leur service,
qui est un groupe de presse sénégalais, l'un des plus importants,
le premier groupe privé de Sénégal avec une station, un radio, un réseau de radio, avec une école, avec des journaux, etc. L'ambassade américaine à Dakar a dit que si le président veut parler aux Sénégalais, appelez Dambabou. Ils ont cherché, ils m'ont vu, ils m'ont invité pour venir l'interviewer à la Maison Blanche, à son bureau.
Vous êtes allé l'interviewer à la Maison Blanche, dans son bureau?
Absolument. On était quatre Africains, quelqu'un qui est du Nigeria et un autre Américain qui travaille pour AllAfrica.com. On nous a invités pour dire que voilà les gens à qui il faut parler si vous voulez que l'Afrique sache pourquoi le président George Bush venait dans ce continent. On a pensé que le groupe Sud Communication était peut-être la voix idéale là-bas et j'étais le correspondant connu. Vous savez, les services américains connaissent souvent aussi les gens qui parlent de leur pays.
Merci Dambabou et puis bon courage.
Merci Alain, merci.
Ce magazine vous a été proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque, présent dans 11 pays d'Afrique subsaharienne.